Journée internationale de la francophonie à la BNF.
Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Bonjour et bienvenue en direct et en public ici à la BNF, sous la bannière Partager la culture. La Bibliothèque nationale de France nous accueille notre studio nomade avec Steven Hensley à la technique, Apolline Vallon-Raison à la réalisation, en cette journée internationale de la francophonie pour partager toute la richesse de ces collections, mais aussi celles conservées dans les bibliothèques du monde francophone et d'ailleurs en réseau grâce à la numérisation. Tous ces trésors de l'humanité sont aujourd'hui accessibles à tous, bien au-delà de ces murs. Ce qui change tout, mais comment élargir encore plus le cercle? Pourquoi la numérisation permet-elle de préserver, mais aussi d'unifier et de partager les recherches, mais aussi les patrimoines culturels en danger, des manuscrits de Tombouctou aux images 3D des temples syriens? Quels sont les défis et les enjeux des humanités numériques? Voilà ce que nous allons nous demander avec nos invités, le directeur général adjoint de la BNF, Arnaud Beaufort, Isabelle Niefenegger, directrice des relations internationales ici à la BNF, et le chercheur Stéphane Pouillot du CNRS, directeur technique d'Humanum, humanité numérique aujourd'hui, autour de la question comment numériser ensemble notre patrimoine mondial. Bienvenue. Bonjour Arnaud Beaufort.
Bonjour Caroline Lachowski.
Merci d'être en direct avec nous chez vous à la BNF, dont vous êtes le directeur général adjoint, directeur des services et des réseaux. La numérisation des formidables ressources de la BNF, que ce soit le réseau francophone numérique, Gallica ou Data BNF, c'est votre affaire Arnaud Beaufort, une affaire assez monumentale qui permet à tous d'avoir accès aux sources de la culture mondiale de l'humanité, c'est ça le but ?
Alors, tout d'abord, c'est mon affaire, c'est notre affaire.
Bien sûr.
Ici, à la BNF, il n'y a pas un métier qui ne soit pas impliqué dans l'élaboration des outils que vous avez cités. Alors, au premier rang desquels, bien sûr, Gallica, qui est un trésor magnifique pour l'ensemble de la planète, puisque c'est accessible par tout le monde, depuis l'origine d'ailleurs. Ça fait 20 ans que nous œuvrons à ce patrimoine numérisé.
Et que patrimoine numérisé accessible à tous, sans publicité, voilà, sans péage.
Sans péage, sans accessible du monde entier, sans limitation dans le temps et sans identification non plus. Donc vraiment un large accès, un petit peu dans l'esprit de l'Internet des débuts. Et nous continuons de numériser chaque année avec notamment le soutien du Centre National du Livre, il faut le citer, qui nous aide année après année. Aujourd'hui, nous en sommes à 4,3 millions de documents qui sont librement accessibles sur Gallica. Et lorsque vous êtes chercheur à la BNF, vous avez une version intramuros qui vous offre en plus tout le patrimoine numérisé sous droit, qui n'est donc accessible qu'aux chercheurs lorsqu'ils sont à l'intérieur de nos murs.
Alors comment partager justement à la fois tous ces trésors, mais aussi ces technologies numériques à l'international, et pourquoi? Bonjour Isabelle Niefenegger.
Bonjour.
Alors vous êtes directrice des relations internationales de la BNF, qui fonctionne désormais en réseau, en plateforme collaborative, avec de nombreuses bibliothèques du monde, notamment du monde francophone, mais aussi des bibliothèques d'Orient et d'ailleurs, on y viendra. Vous œuvrez aussi à la préservation des patrimoines en danger par la numérisation. Pour vous, Isabelle Niefenegger, la numérisation, c'est un moyen aussi d'unifier les ressources culturelles de l'humanité?
Oui, donc comme vous le disiez, on travaille maintenant plus du tout. La Bibliothèque nationale, c'est finalement une bibliothèque au sein d'un réseau international qui comprend des centaines d'institutions patrimoniales, de recherches, d'archives, de centres audiovisuels.
Oui, il n'y a pas que du texte.
Il n'y a pas que du texte. Et donc on est vraiment au cœur de ce réseau, et toute l'action qu'on mène, on essaye de la mener en réseau justement avec l'ensemble de ces institutions. On ne sait pas toujours que la BNF, c'est aujourd'hui plus de 40 conventions de partenariat avec des partenaires à l'étranger.
Des bibliothèques du monde entier.
Des bibliothèques du monde entier, des archives, des centres de recherche. Et puis c'est également la présence dans plus de 70 organisations internationales qui traitent de divers sujets. Et c'est vrai que le numérique a finalement été pour nous un support, et depuis plusieurs années, un support assez exceptionnel de dynamisation de notre action internationale. Autrefois, on échangeait des copies de livres physiques, on faisait des, comment on disait ça, on appelait ça les échanges, hein, on s'envoyait des revues mutuellement. Et aujourd'hui, ben, ce qu'on échange, ce sont des fichiers numériques, ce sont des données.
Et ça s'échange beaucoup plus facilement, ça se partage, hein, ces humanités numériques. Bonjour Stéphane Pouillot.
Bonjour.
Alors vous êtes ingénieur de recherche au CNRS, spécialiste des humanités numériques et directeur technique d'Humanum. La recherche en sciences humaines et sociales aujourd'hui, elle est produite directement sur support numérique, support digital. Pour vous, ce n'est pas une question de conservation, c'est une question de production aujourd'hui de ressources.
Oui, de plus en plus, les enseignants-chercheurs des lettres et sciences humaines et sociales au sens large du terme produisent des données qui sont numérique à la source, on va dire, que ce soit l'archéologie, les enquêtes en sociologie, par exemple, l'ethnologie également, sont des disciplines où vous avez une production numérique par des enregistrements sonores, par des outils embarqués dans des drones, par exemple, qui vont faire des relevés 3D, des dispositifs de ce type-là, qui vont générer des dizaines et des dizaines de téraoctets.
Donc il faut accompagner les chercheurs.
Accompagner, structurer, conserver, mettre à disposition et partager.
Autour de la question comment numériser les recherches et notre patrimoine mondial, ici en direct à la BNF et en public, on commence par une petite visite sonore des trésors, accessible à tous en quelques clics sur Gallica ou Data BNF. C'est le mix forcément numérique et francophone d'Apolline Verlon-Raison.
Tu me dis le mot francophonie, c'est le mot fierté qui me vient en tête.
Drôle.
Le français.
Fête, joie de vivre.
La culture.
La diversité.
Gallica, c'est la fabuleuse bibliothèque en ligne de la Bibliothèque nationale de France et de ses partenaires. Plus de 4 millions de documents y sont disponibles.
Nous partageons tous un intérêt certain pour la culture et nous partageons d'être attentifs à ce qui se passe dans ce domaine de la diversité.
J'aime ça parler français et que les sacres sont plus juteux et qu'on se chicane mieux en français.
Vous en voulez encore plus ? Data BNF contient des liens et des rebonds vers des ressources complémentaires comme des bibliothèques étrangères ou Wikipédia.
Nous allons avoir besoin de toujours plus de support pour transmettre ce savoir, quelle sera son origine, et puis le support, quelle sera l'origine de support.
Cette technique est très minutieuse aussi parce qu'il faut faire avec beaucoup de douceur. Vous avez des vieux manuscrits du voire le 14e siècle, même 11e siècle. Souvent, elles sont trop fragiles.
Il faut que chaque page soit photographiée.
Oui, oui, page par page.
Communiquer les nouveautés du monde.
Grâce à Data BNF, ces informations fiables et pertinentes viennent à votre rencontre.
À notre rencontre partout dans le monde, à notre rencontre ici où nous sommes en direct à la BNF, où nous mettons la numérisation en question. Isabelle Nufenegger, on l'a dit, la numérisation à la BNF, il ne s'agit pas que de numériser des livres ou de l'écrit. Il y a beaucoup d'autres domaines aujourd'hui qui sont concernés par la numérisation.
Oui, il y a beaucoup d'autres domaines et surtout ce qu'on numérise, c'est le patrimoine national, mais c'est aussi tout un patrimoine qui est arrivé dans les collections depuis la fondation de la bibliothèque, hein, depuis les origines, par échange diplomatique, culturel, acquisition, échange scientifique, et notamment aussi par production. Et on parle beaucoup de manuscrits, on parle beaucoup d'imprimés, mais comme vous le soulignez, il y a également le patrimoine audiovisuel qui se trouve dans les collections de la bibliothèque. Et il se trouve que nous avons des collections audiovisuelles, notamment, qui sont des œuvres de cinéastes qui ont été produits en Afrique ou qui ont été produits par des cinéastes africains en France ou ailleurs. Et un des enjeux pour nous, c'était de faire en sorte que ce patrimoine qui était à la BNF, qui a été numérisé par la BNF, puisse être rendu accessible partout dans le monde. Alors, comme c'est un patrimoine sous droit, on ne peut pas encore le mettre dans Gallica, en tout cas pas dans Gallica extramuros, voilà. Et donc on a mené un programme avec l'Organisation internationale de la francophonie notamment, de numérisation de ces œuvres de vidéastes africains. et on a fait don des copies numériques de ces œuvres à l'Institut Imagine à Ouagadougou.
On va y revenir tout à l'heure sur ces copies numériques et sur ce soutien au cinéma qui se produit actuellement. Mais la Bibliothèque nationale, vous soutenez aussi évidemment la numérisation du patrimoine en danger. C'est vraiment, ça fait partie à la fois de votre mission et de votre responsabilité, et de notre responsabilité.
Je crois que c'est très important d'insister sur le nôtre, parce que vraiment tout le sens de notre politique, c'est de dire que il n'y a pas aujourd'hui de sauvegarde du patrimoine mondial qui puisse se faire seule. Vraiment, la sauvegarde du patrimoine mondial et notamment du patrimoine documentaire, c'est réellement une responsabilité partagée entre les grandes institutions documentaires dans le monde où qu'elles se trouvent.
Et vous avez également monté un réseau avec les bibliothèques d'Orient.
Alors on a monté, on a à la bibliothèque, il faut le savoir, un fonds remarquable lié à l'histoire du Moyen-Orient et de collections originaires du Moyen-Orient. Et donc fort de la connaissance que nous avons de ce fonds et des réseaux que nous entretenons avec d'autres bibliothèques situées au Moyen-Orient, nous avons effectivement fait le choix il y a quelques 3 ans maintenant, de travailler avec 8 bibliothèques situées au Moyen-Orient pour sauvegarder leur patrimoine, mais également le nôtre, qui n'avait pas été encore numérisé, le numériser ensemble et le rendre accessible sur un site qui s'appelle Bibliothèque d'Orient et qui vise vraiment à témoigner des échanges culturels, scientifiques, diplomatiques entre ces pays du Moyen-Orient, au sein de la zone, entre la France et le Moyen-Orient, mais également l'Europe et le Moyen-Orient de manière générale. Donc il y a une dimension dans ce projet, évidemment, de numérisation et de rendre accessible aux chercheurs ces sources primaires qui permettent de comprendre la région au-delà des discours parfois peut-être un peu dogmatiques. Donc nous avons demandé à des chercheurs...
D'avoir le recul, d'avoir le recul là-dessus.
Avec le recul, les sources, d'abord des sources anciennes, des sources qui datent du 17e, 18e... 19e, recontextualiser avec des chercheurs qui nous permettent de mieux comprendre ces sources et de mieux comprendre l'histoire de la région à travers ces sources.
Autour de la question des humanités numériques en Orient et à la BNF, on ouvre tout grand nos oreilles à l'écoute du rappeur syrien Jundi Majoul, figure de la scène hip-hop du Proche-Orient, aujourd'hui réfugié en Europe, Vlad El Baladi sur RFI.
مخبي وش الجن صلاح ما عاد ماشي والغش منكم دعو تقول الوحش فينا بنخلق وحش منكم بس يخلص كاس النصف اللي بايده صب له شمنده مو انا اللي خلفتك ونسيتك اللي مآمن بالوطن عم بحلفك بجنسيتك بكره بنندر قلتك انت بنندل قلتك لامتى بنضل لو قلتك انت صندل يا عصا بسيطه حامل العتب عتاله وماشي بالزور ليك واخوك بالايمان عم بيطاحش بالدور بقيان شوكه بحلقك ان بتشيلها بتبزق شوك وتضفوك حامل حيمنس يؤدي جهنم شوب مان حيره شو الحيله الي زمان رافع راسي بس افكاري صايره ثقيله بس على بدل الوقت بقيمه شو ذنبي الحرب بقيمه العله ان لجأنا لبطون كرمال كل حضن بديره بلدنا البلد نحنا بس المصالح اولى الك
Le rappeur syrien Jundi Majoul dans notre bibliothèque sonore sur RFI en direct de la BNF en cette journée internationale de la francophonie autour de la question de la numérisation du patrimoine mondial de l'humanité. Je vous propose un nouvel éclairage, c'est celui du professeur Stéphane Mala qui vient d'être nommé au Collège de France titulaire de la nouvelle chaire Sciences des données.
Je pense que ces initiatives de digitalisation, toutes ces différentes sources culturelles sont très importante et que c'est important que ce soit de la politique publique qui les fasse parce que elles sont pas forcément porteuses d'avantages commerciaux et pourtant c'est très important parce que c'est la façon d'offrir un accès beaucoup beaucoup plus large à tous ces éléments. Donc, à des vieux manuscrits, personne ne peut consulter des vieux manuscrits, des incunables, parce que ça les détériore. Avoir la possibilité d'y accéder par une digitalisation comme ça, c'est quelque chose de fabuleux, parce que ces manuscrits, ils ont aussi un contenu émotionnel, ils ont un contenu culturel formidable, et puis aussi pour la recherche, tout simplement, parce que ça permet de faire de l'analyse de données sur toutes ces données qui sont digitalisées. Donc moi, je trouve ça extraordinairement positif et très très bien.
Arnaud Beaufort, vous voulez réagir à ces encouragements du professeur Stéphane Malin du Collège de France?
Tout d'abord, je ne vais pas en effet goûter le plaisir de ces compliments, mais non, je voulais réagir quand il dit pas porteuse d'avantages commerciaux, parce que je vois quand
c'est
même
une résistance, hein,
je
ça,
vois
hein.
quand même en effet tous les avantages que peuvent retirer les chercheurs de cette numérisation. Regardez les auteurs qui publient aujourd'hui des grands textes, Pierre Lemaître avec Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013.
Il a
travaillé sur les fonds numérisés, Gallica, la Première Guerre mondiale, avec tous ces documents que nous avons apportés à l'occasion justement du premier centenaire du conflit.
Première Guerre mondiale.
Et encore maintenant, comment dire, l'ensemble de la production, on vient du Salon du Livre, de nombreux auteurs sont venus nous dire qu'ils utilisaient nos sources. C'est pour ça que vous trouvez sous la marque Gallica une baseline, comme on dit en bon français, source de culture. Vous voyez, parce qu'on essaye de faire comprendre qu'en effet, on invite tout un chacun à remonter à la source, d'être, en d'autres termes, un peu...
Et gratuitement, sans avoir à subir non plus de publicité en remontant à la source, sans avoir de péage.
Absolument. Et donc... notamment un peu dans cet esprit du fact-checking d'aujourd'hui, de toujours se poser la question, est-ce que l'origine du terme, de l'expression, de mon sujet de recherche, qu'est-ce que Gallica peut m'apporter ? Et en même temps, la dualité de cette notion de source de culture, c'est d'insister sur le fait que ça va générer de nouvelles productions.
Et de nouvelles recherches, hein, Stéphane Pouillot, j'ai envie de vous faire réagir, parce que vous accompagnez les chercheurs qui aujourd'hui produisent directement des données, qui se servent des données anciennes, mais qui produisent directement des données.
Oui, alors ils en produisent de plus en plus, et beaucoup, et donc il faut les accompagner sur ce plan-là. C'est un peu l'objet de ce qu'on propose en tant qu'infrastructure de recherche à Humanum.
Humanum pour Humanité Numérique. Hein.
Humanum pour Humanité Numérique, donc une infrastructure qui permet à l'ensemble des chercheurs français et maintenant européens et internationaux de profiter à la fois de services numériques, de conservation de données, de sécurisation de la donnée, de transformation de la donnée.
Est-ce que leur rapport à l'archive a changé à tous ces chercheurs ? Est-ce que c'est plus facile finalement, même pour tout un chacun, d'avoir accès à ces magnifiques archives et à ces trésors ?
Alors, le rapport a changé dans la mesure où aujourd'hui, de plus en plus, les données étant accessibles, soit de façon sécurisée, soit quand elles sont publiées, comme sur Gallica, directement utilisables. L'assiette des documents disponibles et des données disponibles a considérablement grandi pour les chercheurs. Et donc, il y a des nouveaux réflexes à acquérir pour se repérer en fait dans cette documentation et pour la qualifier sur le plan documentaire, scientifique.
Pour qu'ensuite on puisse s'y repérer aussi, c'est-à-dire pour dire ce qu'il y a dedans,
oui,
parce que sinon il y a une masse d'informations.
La fabrication de corpus, la mise en corpus, comme l'on dit en sociologie ou en ethnologie, est aujourd'hui fondamentale parce qu'elle est hybride à la fois avec des documents qui sont des documents traditionnels du monde physique, on va dire, mais aussi de plus en plus des documents qui ne sont que numériques.
Qui ne sont que numériques et qui sont directement générés numériquement. Donc là aussi, il faut, j'imagine, accompagner les chercheurs qui vont avec leur iPhone en ethnologie, enregistrer très loin, ou en archéologie, ramener directement des données numériques.
Alors, ils ne vont pas forcément très très loin. Ils vont tout simplement aux archives départementales quand ils sont sur une recherche qui concerne le territoire national. Mais avec leur téléphone portable, effectivement, ils vont avoir tendance à photographier photographier des documents et à les mettre dans leur machine. Il faut les sécuriser là aussi.
On va revenir évidemment en deuxième partie sur toutes les questions justement de conservation, de protection et de pérennisation. Nous continuons de nous interroger autour de la question pourquoi et comment numériser le patrimoine culturel mondial en direct ici à la BNF et en public. Merci au public d'être venu nous écouter. On se retrouve juste après le flash d'info pour étendre nos humanités numériques en réseau à tout le monde francophone et même au-delà carrément. A tout de suite.
Journée internationale de la francophonie à la BNF.
Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie en direct et en public à la BNF à Paris sous la bannière Partager la culture. Nous sommes en compagnie d'Arnaud Beaufort, directeur général adjoint de la BNF, d'Isabelle Niefenegger, directrice des relations internationales et du chercheur Stéphane Pouillot du CNRS, directeur technique d'Humanum. Humanité numérique aujourd'hui autour de la question pourquoi et comment numériser notre patrimoine mondial en réseau pour préserver, unifier et partager les ressources, mais aussi la création francophone sur tous les supports. Soutien notamment à la numérisation du cinéma africain avec le laboratoire Imagine à Ouagadougou, extrait du bien nommé court-métrage Trafic d'idées.
Mais non, on ne commence jamais par un dialogue. C'est quoi la première loi immuable ?
La lumière est plus rapide que le son.
Voilà. Et ça veut dire quoi ça, hein ?
Ben que... qu'on voit l'inspecteur.
Oui, bon, t'as la tête. Mais le reste du corps est où ? En orbite, dans l'espace ?
Non, il est là.
Oui, mais où ? À Bobo, à Bamako ?
Non, ici, devant l'entrée d'Imagine, là.
D'accord, mais il faut l'écrire, sinon il est nulle part, ton personnage.
Trafic d'idées en francophonie. Isabelle Niefenegger, vous l'avez dit, la BNF soutient le laboratoire Imagine à Ouagadougou et la numérisation du cinéma africain. Mais il y a pas mal de questions qui se soulèvent autour des outils du numérique. J'ai envie de vous poser la question soulevée par un de nos auditeurs sur les réseaux sociaux. Félicien à Libreville au Gabon nous demande, vous demande comment garantir la pérennité des archives numériques quand on sait que les supports utilisés pour leur stockage sont périssables, endommageables, détériorations, virus, bugs de système. Les archives numériques ont-elles une durée de vie ? Qui veut, qui peut répondre à cette question ? Arnaud Beaufort.
Alors, merci de cette question complexe. La pérennité des données numériques, la BNF y a répondu avec un système qu'elle a mis au point parce qu'en 2005, lorsqu'elle s'est lancée dans l'aventure, il n'y avait pas grand-chose de disponible. C'est un système qui s'appelle SPAR et qui préserve plusieurs copies dans plusieurs sites physiques différents et qui surveille constamment l'état des supports et de ces copies. Mais plus encore, parce que ça, à la limite, vous me direz, c'est presque simple à imaginer. Plus encore, elle surveille que les formats qui sont dans l'archive publique de la BNF, eh bien, sont des formats qui persistent dans le temps, sait lire, qu'on continuera de savoir lire, et dès qu'il y a un risque de finalement perdre le contenu parce que nous ne disposerions pas des outils pour lire l'information que nous avons stockée, eh bien le système automatiquement recopie dans un format différent, de manière à garantir, vous voyez, la lisibilité dans le long terme.
C'est-à-dire que dans la numérisation, Stéphane Pouillot, j'imagine que vous êtes sur la même ligne, il faut toujours et sans cesse recopier, il n'y a pas de support ultime sur lequel on pourrait préserver les trésors de la BNF notamment, ou les trésors de la recherche.
Oui, il n'y a pas de support stable, on va dire. La meilleure façon de conserver, c'est de recopier, comme ça a été dit, de façon régulière, et de prévoir, en fait, hein, tout simplement, les ruptures de charge possibles qui vont avoir lieu, les changements de format, les changements de pratique aussi. C'est-à-dire que les chercheurs ont besoin aussi, de temps en temps, de réinterroger des données avec un autre angle de vue. Et ça veut dire de pouvoir accéder aux données, de pouvoir les récupérer, de pouvoir les retransformer. Une des particularités des données numériques, au-delà de la nécessité de leur stabilité, et leur intégrité physique, de la sécurité, de l'accès.
Oui, qu'elles ne soient pas abîmées.
Voilà, c'est de pouvoir les réinterroger, de recomposer l'archive. Et de plus en plus, cela se fait de façon en ligne, hein, puisque beaucoup d'outils que les chercheurs produisent... Que
oui, sans toucher à l'original, on peut retoucher finalement...
Ce n'est pas forcément retoucher à l'original, parce qu'on va être capable de conserver des multiples copies d'une même donnée, mais ça va être d'avoir des plateformes qui vont être capables de fabriquer des vues à un instant T sur une donnée pour pouvoir les retravailler. Donc, ce sont souvent des outils qui viennent des communautés scientifiques, des laboratoires, que nous hébergeons à Humanum et que nous offrons au plus grand nombre, y compris à des chercheurs qui peuvent être à l'étranger.
C'est ça, il s'agit aussi de partager non seulement les sources, mais aussi tout ce savoir technologique de la numérisation. C'est ça qu'il faut mettre en partage aussi.
Ça, c'est vraiment un point très important de notre action, c'est-à-dire que au-delà du partage des fichiers numériques, du partage des collections, ce qu'on a vraiment décidé de faire à la BNF, et comme le disait Arnaud, parce qu'on a cette chance de bénéficier d'un soutien public pour pouvoir le faire, c'est de partager notre infrastructure. Et donc, à la fois Gallica, la technologie, mais également la technologie d'archivage pérenne SPAR, ce sont des technologies qu'on offre aussi à nos partenaires dans nos projets de coopération internationale.
C'est un package, en fait.
C'est un package. Au début, on l'a fait pour nos partenaires nationaux, ça est toute la politique de coopération nationale, et puis un jour, on s'est dit avec Arnaud, mais quand même, on pourrait aussi offrir ça à nos partenaires internationaux. Et donc, par exemple, la Bibliothèque numérique francophone, qui est donc... une bibliothèque numérique de ressources, de documents issus des grandes bibliothèques francophones dans le monde. C'est une technologie Gallica marque blanche et c'est de l'archivage pérenne dans SPAR. Donc on offre à nos partenaires non seulement la diffusion de leurs documents à travers cette bibliothèque numérique francophone sous technologie Gallica marque blanche, mais également l'archivage pérenne dans SPAR. Et donc si jamais... évidemment, nous leur donnons toujours une copie numérique du document, mais si jamais ce document était détruit, quand on regarde ce qui s'est passé au Mali, à Tombouctou, ils avaient des fichiers numériques, mais ces fichiers numériques, pour certains, ont été détruits, pas tous, mais pour certains, il n'y a pas que les documents physiques, on détruit aussi les ordinateurs. Donc nous, on a toujours cette offre d'archivage pérenne, et pour Bibliothèque d'Orient, ça a été exactement la même réflexion. On sait qu'aujourd'hui, les bibliothèques partenaires Bibliothèque d'Orient sont dans une région... instable, que certaines de ces bibliothèques sont des bibliothèques confessionnelles notamment, donc elles sont susceptibles, on croise les doigts pour que ça n'arrive pas, mais elles sont susceptibles de faire l'objet d'actes de malveillance, voire d'actes de terrorisme, et donc de pouvoir leur dire, ben voilà, nous numérisons avec vous, nous vous offrons cet archivage pérenne, bien entendu vous archivez également chez vous, mais si jamais il arrivait quelque chose, nous vous donnons exactement la même qualité et la même garantie que pour nos collections nationales. Ça, c'est très important pour nous.
Puisque vous venez de parler d'Humani, Isabelle Niffenegger, je vous propose d'écouter l'éclairage du docteur Abdoulakri Idrissa Maïga. Il est chercheur et linguiste, directeur général de l'Institut des hautes études et des recherches Ahmed Baba de Tombouctou, et c'est lui qui est en charge donc de la numérisation des manuscrits de Tombouctou auxquels a activement collaboré la BNF. Le docteur Maïga a été joint par téléphone à Bamako par Raphaël Constant et il explique comment il a suivi toutes les étapes de conservation, même avant le numérique, de tous ces manuscrits.
D'abord, il y a différentes étapes de conservation. D'abord, la conservation manuelle traditionnelle qui se base sur le faire des couvertures en cuir et puis les enterrer dans le sol. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, qu'on appelle le début de la technologie, à partir de microfilms, à partir de photocopies traditionnelles, ordinaires. Maintenant, la troisième phase, là on est dedans, c'est de faire des confusions des boîtes à travers des scribes, à travers des matières neutres, et loger les manuscrits dans ces boîtes. Ensuite, maintenant, la conservation numérique, c'est-à-dire numériser, c'est-à-dire prendre les images de tous les manuscrits et les stocker dans des serveurs.
Qu'est-ce que vous attendez de cette numérisation des manuscrits de Tombouctou?
Bon, aujourd'hui, tout ce qui est important aujourd'hui est appelé à être numérisé ou disparaître totalement. Donc vraiment, on ne peut pas être au-delà maintenant de ce que la technologie aujourd'hui ou l'avancée technologique nous demande. C'est-à-dire de numériser toute la collection et essayer de les mettre, bon, avec des conditions de les mettre sous en ligne pour que les chercheurs peuvent tirer du profit à partir de Paris, à partir de Berlin, à partir de Londres et autres. Nous avons pu former des agents dans ce domaine et nous avons pu aujourd'hui numériser 99% de nos manuscrits. Donc maintenant, la deuxième phase par rapport à ça, c'est d'abord consulter nos autorités, c'est-à-dire le département ministériel, le gouvernement, pour avoir maintenant leur autorisation de mettre ces récits, c'est-à-dire il y a plusieurs familles qui ont contribué, ou bien leurs ancêtres ont contribué à constituer ces manuscrits. On ne peut pas automatiquement les mettre sur le show sans vraiment créer des concertations. Et comment les mettre et à quel degré, à quel niveau?
Donc si je comprends bien, numériser, ça veut donc bien sûr dire préserver ce patrimoine, mais ça veut aussi dire le diffuser, et notamment dans d'autres langues qu'en arabe.
Oui, numériser, c'est mettre directement à la disposition des chercheurs qui peuvent tirer profit en arabe directement. Ça, c'est la numérisation. Mais au-delà, il y a l'exploitation. L'exploitation, maintenant, consiste à éditer, restaurer les textes anciens arabes, de manière qu'on puisse lire, les lire et les traduire maintenant dans d'autres langues. En français, en anglais, dans nos langues traditionnelles, et les publier maintenant au profit d'un grand public de chercheurs et de ceux qui sont intéressés par les manuscrits, les historiens et autres. Et qu'on puisse le contenu de ces originaux, qu'on puisse les utiliser, les exploiter, les partager à travers les images, même, à travers la numérisation.
Autour de la question.
Journée internationale de la francophonie à la BNF.
Rappelons que ces manuscrits de Tombouctou ont été sauvés par les habitants eux-mêmes, hein, souvent au péril de leur vie. C'est pas toujours simple de partager, ça semble extraordinaire. On veut partager, on veut que tout soit en libre accès. Mais quand on entend le docteur Maigret, on se rend compte que c'est pas toujours si simple de partager des trésors qui appartiennent à des familles, à certaines confessions. C'est pas aussi évident que ça. Qui veut réagir là-dessus ? Stéphane Pouillot ?
Oui, c'est une question qui est fondamentale pour... C'est ce qu'on appelle le retour aux populations aussi, hein, c'est que souvent l'accès en fait aux données qui ont été numérisées sont très importantes pour les gens qui sont sur les lieux où ça a été numérisé.
Mais qu'on ne vienne pas juste le reprendre pour le partager pour la recherche, enfin il y a vraiment cette notion-là.
C'est un enjeu qui est très important, sur lequel les chercheurs sont très sensibles. Et souvent d'ailleurs, ils retiennent souvent les archives, c'est-à-dire que en termes de partage, oui, mais est-ce que j'ai le droit finalement parce que j'ai obtenu ces données? Mais voilà, donc il y a un enjeu qui est très fort, très important, et ce qui est fondamental, c'est aussi de penser aux modalités d'accès à ces objets numériques-là.
C'est-à-dire
Tout simplement, il y a des pays où les ordinateurs, les réseaux Internet ne sont pas forcément très bien ancrés, développés, etc. Mais par contre, il y a des téléphones portables partout, hein, c'est le cas en Afrique, etc. Et donc, il faut penser, prévoir des interfaces qui vont être consultables sur ce genre de support-là, plutôt que sur un ordinateur avec du très haut débit, par exemple, des choses comme ça. Donc il y a un enjeu très très fort dans l'accès pour les populations du monde entier.
Pour les populations, et j'imagine aussi qu'il y a un enjeu de formation. Hein. Vous disiez qu'à la BNF, vous partagez les outils technologiques, vous partagez les moyens, vous partagez les avancées. Il faut aussi former, j'imagine, un peu partout, Isabelle Niffenegger.
Je dirais que c'est presque... Là, c'est vraiment notre quotidien, c'est-à-dire que le transfert de compétences, c'est vraiment quelque chose qu'on pratique, alors que toutes les équipes de la... Enfin, pas toutes les équipes, mais de nombreuses personnes à la BNF partagent au quotidien. Parce que c'est vrai qu'avant avant de numériser, le docteur Maigret a bien expliqué, il y a toute une série de choses à faire. Et donc, on est énormément sollicité à la BNF pour intervenir, alors soit pour accueillir des stagiaires du monde entier qui veulent savoir comment on conserve un manuscrit ou un document audiovisuel, comment on le numérise, comment on crée un catalogue. Et puis on va aussi sur site pour former dans le cadre de sessions de formation. On a notamment un stage qui est consacré chaque année, grâce au soutien du ministère de la Culture, à la conservation physique et numérique, où on accueille des collègues étrangers vraiment des 5 continents qui viennent voir un petit peu comment nous, on s'est organisé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va falloir qu'ils s'organisent comme ça, parce que chaque situation est particulière et les conditions climatiques, les conditions de sécurité sont évidemment différentes. Mais ce que nos experts essayent de faire toujours, c'est justement d'expliquer ça. C'est-à-dire que il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Et ce qui est intéressant, c'est de discuter entre professionnels pour arriver à la meilleure solution dans un contexte donné.
Dans un contexte aussi de mutation, parce qu'on a l'impression que vos métiers ont complètement changé. Nous, on a un accès incroyable à tous vos trésors. Effectivement, sur tous ces sites, en un clic, vous avez, je crois, au moins 50 000 personnes par jour qui cliquent sur le site de Gallica. Quand on y va, on n'arrive plus à en sortir, je dois dire. Ça, j'en ai fait l'expérience. Mais c'est vrai qu'il y a un changement complet de rapport à tous ces trésors, à la recherche en cours et au partage.
Absolument.
Arnaud.
Absolument. C'est, comment dire, vous avez raison d'insister sur les outils dont on a besoin, mais le métier en lui-même reste le même. Les bibliothèques ont toujours collecté les documents, conservé et les ont communiqués. Alors, ils les communiquent avec l'état de l'art de la technique. Autrefois, il fallait en effet se déplacer à la Bibliothèque Royale ou à la Bibliothèque Richelieu. Maintenant, vous pouvez avoir sur Internet tout ce qui est libre de droit. Alors, j'insiste là-dessus parce que, vous le savez, c'est moins de la moitié des documents qui sont libres de droit. La grande partie, la majeure partie des documents même que nous conservons ici sur le site de Tolbiac sont des documents sous droit parce que la production a été très intense au XXe siècle et donc elle est encore couverte par le droit d'auteur.
Autour de la question pourquoi et comment numériser le patrimoine mondial de l'humanité, on va revenir sur toutes ces questions ici à la BNF en direct et en public, mais on peut déjà commencer par répondre à ce pourquoi, parce qu'il y a quelque chose d'inaliénable. On écoute le poète slameur et écrivain camerounais Marc-Alexandre Obembe, alias Capitaine Alexandre, sur RFI.
Ces mots de ma mère qui me reviennent, qui tournent en boucle dans mon cœur depuis plus de 20 ans. Il y a quelque chose chez la femme et l'homme, une vacuité sidérale, une part manquante, une absence abyssale, une vacance à être qui ne peut être comblée que par la poésie. La poésie, pas seulement celle des livres, des mots, mais aussi et peut-être surtout celle essentielle des matins de givre et des gestes tendres. La poésie, oui, la poésie, ou le poème qui se dresse en vertige contre la vulgarité, contre le cynisme, contre la violence du monde. Le poème qui se dresse en vertige pour dire oui, accueillir dans la nuit tout de la beauté. Il y a quelque chose chez la femme et l'homme, une vacuité sidérale, une part manquante, une absence abyssale, une vacance à être qui ne peut être comblée que par la poésie. Poésie de la beauté intraitable, poésie des amours inévitables, poésie qui dissipe les ténèbres. La poésie, le poème qui se dresse en vertige pour nous rappeler à nous-mêmes, pour nous rappeler à l'ordre et à la lumière de nous-mêmes. Pour nous rappeler à l'ordre et à la lumière de nous-mêmes. J'ai appris à écrire dans le noir. De là vient peut-être ma quête de lumière. J'ai appris à écrire dans le noir. De là vient peut-être ma quête de lumière. De là vient sûrement ma quête de lumière.
La quête de lumière de Capitaine Alexandre sur RFI, la poésie du slameur résonne ici en direct et en partage à la BNF autour de la question pourquoi et comment numériser notre patrimoine mondial. Je vous propose un dernier éclairage en forme de question soulevée par la philosophe Nathalie Sartoulaju qui était récemment notre invitée autour de la question de la transmission.
Comment les différents supports aujourd'hui d'archives façonnent-ils en fait notre mémoire, probablement un peu différemment selon le support qu'on utilise? J'imagine que ça doit transformer la mémoire. Je pense qu'on est en pleine mutation de la mémoire avec ces différents supports aujourd'hui d'archivage. Peut-être aussi une autre question, est-ce que le problème de notre société, le problème à venir, ça va pas être d'avoir trop d'archives, ce trop de mémoire, et en fait je m'interroge quelle place faire à l'oubli. On a besoin aussi pour vivre, c'est vrai à l'échelle individuelle mais aussi à l'échelle d'une société, on a besoin d'oublier pour se construire, voilà, pas simplement de la mémoire.
Qui veut, qui peut répondre, Nathalie Sertoulagi, sur cette question de la mémoire, évidemment intimement liée à l'oubli. Je vois Stéphane Pouillot.
Oui, c'est une préoccupation qui est au... Quand on discute avec des enseignants-chercheurs, qui est toujours central, c'est le rôle du filtre en fait, que le chercheur va faire par rapport aux documents dans sa production de publications, y compris de publications grand public sur des ouvrages de vulgarisation. C'est très important, donc à l'heure des données qui vont être nativement numériques, c'est très important que ce filtre existe et que les enseignants-chercheurs qui font partie de cet écosystème de la connaissance travaillent en relation avec des bibliothécaires, des archivistes aussi.
Pour classer, c'est-à-dire pour qu'on puisse les utiliser, ces masses de données.
Voilà, pour amener une expertise, un discours scientifique, des connaissances, un recul par rapport à la donnée aussi, qui est central dans la transmission et dans la création de ce filtre. Qui est nécessaire pour prendre du recul sur les faits, sur les données.
Isabelle, c'est vrai que c'était peut-être étrange de se poser la question de la mémoire et de l'oubli dans un lieu comme la Bibliothèque nationale de France, mais tout de même, face aux masses de données, c'est une question qu'on se pose. C'est formidable d'avoir tout ça, mais comment on fait avec tout ça si on a de plus en plus? Jusqu'où ça va nous entraîner?
Oui, je crois qu'il y a deux dans les deux moments que vous nous avez donné à écouter, il y avait deux choses. Il y a à la fois la relation affective à la mémoire, c'est-à-dire la nécessité qu'on a tous de se construire à partir d'une mémoire familiale, nationale, de différents niveaux. Et de ce point de vue-là, le patrimoine documentaire est une source très forte de transmission de la mémoire. Et ça, on le voit vraiment. On parlait des manuscrits de Tombouctou. Je me souviens quand on a participé au tournage d'un film sur les manuscrits de Tombouctou. À la fin, il y avait une jeune fille qui disait, mais moi je voudrais avoir accès à ces manuscrits parce que c'est mon histoire, c'est ma mémoire. Et elle le disait vraiment, c'était une très jeune fille qui devait avoir 17 ans, pleine d'énergie et de vitalité. On n'imaginait pas qu'elle aurait ce discours-là. Et en fait, vraiment, on sentait que c'était très important pour elle. Et on le voit, nous, dans tous nos déplacements à l'étranger. Certains documents qui se trouvent à la bibliothèque et qui relèvent du patrimoine ou de l'histoire d'un autre pays. Pouvoir voir les fichiers numériques, voir les documents et se les approprier, c'est extrêmement important.
Et du coup, d'ailleurs, petite parenthèse, les questions de restitution se posent un peu moins. Quand c'est numérisé, on peut les avoir en partage.
Je pense vraiment qu'on peut les partager beaucoup mieux parce qu'aussi, on peut les numériser ensemble et surtout, et ça fait la transition avec l'autre question qui est effectivement comment on trie, comment on fait pour savoir ce qui sera important, etc. Et ça, je pense que le faire ensemble, c'est-à-dire de travailler sur ces immenses corpus avec des chercheurs ici en France, mais aussi à l'international, notamment quand il s'agit de collections de collections internationales, de décider avec eux de ce qui est important et de ce qu'on a envie d'écrire sur ces sources, de comment on les interprète et de les interpréter ensemble et non pas séparément. Ça, c'est vraiment un enjeu majeur pour les humanités numériques et pour nous, nos projets de coopération internationale. Et ça, c'est vraiment tout l'objectif de la collection qu'on a lancée, qui s'appelle une collection numérique, qui s'appelle Patrimoine partagé, qui est vraiment l'idée, on met ensemble avec d'autres partenaires étrangers des sources et surtout, ensemble, on les sélectionne. Ensemble, on les décrit et ensemble, on dit quelque chose sur notre histoire commune à travers ces documents. Et ça, c'est vrai que le recours aux chercheurs de tous les pays pour pouvoir assurer la médiation et la transmission de ces sources, c'est fondamental. On ne peut pas le faire seul, bibliothécaire. Voilà. Et ça, et on ne peut pas le faire seul. Nous, Bibliothèque Nationale, il faut le faire avec les autres.
Arnaud Beaufort, pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, on pourra en parler longtemps, de cette bibliothèque numérique en partage.
J'avais le mot d'infobésité derrière votre question. Et moi, je trouve que, justement, des démarches comme celle de la bibliothèque ou de Gallica est une démarche de bibliothèque. C'est-à-dire de toujours essayer, par la fiabilité des données qui sont autour du document, de la remise en contexte, du lien que l'on peut faire entre un document et le contexte d'élaboration, c'est-à-dire d'autres documents qui permettent d'éclairer dans quel cas celui-ci a été produit. Tout ça, justement, nous garde à l'écart de ce vrac qui pourrait tous nous faire peur, justement, de l'infobésité immédiate ou sur un moteur de recherche, j'en sais rien. On a tout un tas de choses qui ne sont pas contextualisées, qui arrivent en vrac. La démarche d'une bibliothèque comme celle de la BNF avec ses partenaires, parce que, rappelons-le, c'est 380 fonds documentaires qui se trouvent dans l'interface avec un cartouche qui rappelle où sont les documents physiques d'origine, eh bien, cette démarche, elle est quand même très positive par rapport à ça, et elle devrait être même enseignée, je trouve, pour inviter chacun justement à faire l'effort intellectuel de remonter à la source.
De remonter à la source et de ne pas se contenter d'une source.
D'être un peu les saumons de l'information.
Les saumons de l'information, ici à la Bibliothèque nationale de France. Je crois qu'on va s'arrêter sur ce joli mot. Merci infiniment à tous les trois d'avoir fait partager tous ces trésors de l'humanité, de nous avoir donné envie aussi de cette numérisation en partage. Ça fait du bien. Merci Arnaud Beaufort et Isabelle Niefenegger de nous avoir accueillis chez vous, ici à la BNF. Stéphane Pouillot, merci également d'être venu ici et longue vie à Humanum. Je vous rappelle, amis auditeurs et internautes, que vous avez accès à toutes les ressources possibles et imaginables sur le site de Gallica et de Gallica Marque Blanche, ainsi que sur Data BNF. Les liens sont sur notre page. Un grand merci à la technique, à Steven Elsoui et à Maître Chablaoui. Merci également à Apolline, mon Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Et merci bien sûr à toutes les équipes de la BNF. N'hésitez pas à podcaster, télécharger cette émission sur le site de RFI ou sur l'appli RFI Pure Radio.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, émission magique sur RFI. Autour de la question, y a-t-il une science de l'illusion ? Le célèbre illusionniste québécois Luc Langevin nous fera passer de l'autre côté du miroir dans la science manipulatrice, optique et quantique de l'illusion. D'ici là, surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. En cette journée internationale de la francophonie sur RFI, c'est bientôt l'heure des informations.